Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 6 mai 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, avant d'attaquer notre sujet principal aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui retient ton attention aujourd'hui et particulièrement depuis la dernière semaine?
Bien, on a aujourd'hui des marchés boursiers qui ont atteint des nouveaux sommets historiques du côté américain. Donc, le S&P 500 a clôturé hier à 7259. C'est un sommet historique. C'est une hausse quand même de 11,2% durant le mois d'avril. C'est le deuxième meilleur mois d'avril de l'histoire. Le meilleur mois d'avril était le rebond de la COVID en avril 2020 après une baisse très importante en mars 2020. Le marché avait beaucoup remonté. On se retrouve quand même avec 11,2. Là, c'est alors que mars avait été négatif, là, mais quand même pas du tout au même niveau que la COVID. Donc, très fort rebond. Nasdaq aussi, sommet historique à 25 326. On vous a parlé la semaine dernière là, des résultats financiers qu'on attendait là, de plusieurs des sept magnifiques, dont Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple. Donc, à peu près les cinq plus grandes entreprises de la bourse, outre Nvidia aussi, là, qui est plus neutre. Google et Amazon ont très bien fait. Les résultats en info nuagique ont été très, très élevés. Les titres ont beaucoup remonté depuis. Du côté de Microsoft et Meta, un peu moins bon. En fait, les résultats financiers étaient excellents. Les profits à la hausse, supérieurs aux attentes. Par contre, encore des annonces là, d'augmentation des dépenses en infrastructure pour l'IA et le marché commence à se fatiguer un peu là, de voir des dépenses. On aimerait bien là, qu'ils engrangent les profits et que les niveaux de dépenses se diminuent un peu. Et du côté d'Apple, on a rapporté là, que le iPhone 17 est le meilleur iPhone là, depuis les dernières années. Donc, ça va bien de ce côté-là. Le titre a également augmenté. C'est donc les titres là, qui ont porté les marchés à des nouveaux sommets. Je ne vous ai pas parlé du TSX qui n'a pas atteint un nouveau sommet. On n'est quand même pas tellement loin, là. On est 20 points en bas du sommet. En fait, hier, le marché canadien a terminé à la baisse de 71 points. En général, ça allait assez bien. Par contre, Shopify, qui est un des, je pense qu'ils sont deuxième ou troisième, la plus grande compagnie au Canada, terminé en baisse de 17% dans la journée en raison de résultats financiers. Encore là, qui étaient somme toute relativement bons, mais avec des prévisions pour la prochaine année qui étaient inférieures aux attentes, le titre a réagi avec une forte baisse à 17%. On surveille aujourd'hui les résultats financiers de Savaria et Stella Jones. Donc, deux titres là, largement détenus par la clientèle. Nouveau sommet dans l'année, ben, on se souvient, il y a quelques semaines, le Power Corp avait fait un petit repli, probablement par prise de profit. Le titre avait très, très bien fait dans l'année. On est retourné à des nouveaux sommets hier. Même chose du côté de Aecon Group dans la construction. Peut-être une petite parenthèse rapide, là. On se souvient qu'Aecon, initialement, là, on avait pris des positions aux alentours de 16, 20, 22 $ là, en 2021 à peu près. Puis il y avait eu quand même certaines difficultés. Le titre était tombé à 8-10 $ puis on disait fondamentalement, l'entreprise va quand même bien, même s'il y a 2-3 contrats qui sont problématiques. Là, on est à 55 aujourd'hui. Des fois, ça ne part pas toujours du bon côté, mais si on a une bonne thèse d'investissement puis on est assez patient, 3-4 ans plus tard, on est récompensé par, pour l'instant, une très bonne performance. Ça continue de bien aller. Alors, c'est pas, on ne fait pas de recommandations formelles sur des titres. On fait juste constater que l'entreprise performe très bien, même si il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans, ça a été pas mal moins bien là, pendant quelques temps.
La patience est de mise en investissement.
Exact.
Merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on veut parler d'un sujet qu'on discute à chaque mois de mai environ. Puis c'est vraiment parce que l'été approche et les gens commencent à partir en vacances. Donc, surtout les gens qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent partir au mois de mai. Et vraiment, quand on commence à planifier nos vacances, on doit penser aux finances aussi. Donc aujourd'hui, on veut partager des petits trucs simples que les gens peuvent mettre en place pour mieux organiser financièrement leurs vacances. Parce que bien voyager, c'est pas seulement réserver un vol ou un hôtel. Je sais que tu adores cette partie-là, Martin. C'est aussi éviter les mauvaises surprises financières et le stress inutile. Donc, la base, c'est la préparation et trop souvent, l'aspect financier est laissé à la dernière minute.
Ben, exact. Donc, avant de partir, il y a peut-être quelques petites vérifications essentielles. Évidemment, est-ce que vos passeports sont à jour et valides? La chose, avant de booker le billet d'avion, mais au-delà de ça, on blague à part. Là, au niveau de la banque, donc certaines institutions financières, là, pas exigent, là, mais c'est une bonne pratique d'aller aviser son institution financière qu'on voyage à l'étranger. Chez Desjardins, ce n'est pas nécessaire de le faire. Là, les algorithmes là, le détectent. Là, sur l'appli, on ne peut pas le faire. On a déjà, nous, été clients d'une banque bleue, là, puis sur l'appli, puis là, on allait indiquer, OK, ben je m'en vais dans tel pays de telle date à telle date, de sorte qu'on ne se fait pas, en guillemets, flaguer là, par la sécurité. Donc, s'il y a des transactions à l'étranger, évidemment, les détections de sécurité pour les grandes compagnies de cartes de crédit ben, vont détecter, oh, tu sais, ça, c'est peut-être une transaction suspecte. Puis, ben si on est à l'étranger, puis là, notre carte est bloquée parce que, t'sais, c'est pour notre bien, c'est pour notre protection là, que Visa va faire ça, mais c'est un peu désagréable pareil quand ça arrive. Donc, si vous avez une carte de crédit autre qu'avec Desjardins, là, peut-être que sur l'application, il faut aller indiquer que vous quittez en voyage. On vérifie aussi les limites quotidiennes hebdomadaires. Là. Donc, si on prévoit utiliser, par exemple, la carte débit, puis qu'on a juste le droit de retirer 1 000 par jour, ben, peut-être que ça se peut qu'on va avoir besoin de plus à un moment donné. Les limites sur la carte, on a dessus. Tu sais, c'est juste une coutume. Là. On s'assure là, d'avoir évidemment la place. S'assurer que les cartes d'échéance ne viennent pas à échéance pendant le voyage.
Les cartes de crédit.
Les cartes de crédit. Et c'était notre cas. Là.
Oui.
Donc, nos cartes Visa venaient à échéance en mai. On quitte là, bientôt pour des vacances. Donc, on est correct. On a reçu notre carte. On a activé notre carte. On l'a essayé, la carte, avec le NIP et tout. Tout est correct. Là. Donc, tu sais, des fois, on peut juste assumer tout est beau. Puis, pendant qu'on est en voyage, la carte de crédit nous attend dans la boîte aux lettres. Puis, tout arrête.
C'est une bonne pratique de regarder l'échéance de notre carte de crédit parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de le faire. Mais c'est bon à savoir parce que des fois, il peut y avoir des complications à recevoir. Normalement, c'est tout automatisé. Puis, on reçoit notre carte automatiquement. Mais c'est bon d'avoir l'œil dessus.
Ouais. Puis, on suggère tout le temps d'avoir deux cartes en voyage. On a notre carte principale là, que tout le monde utilise, peut-être une carte secondaire qui est moins utilisée, puis évidemment, ben, peut-être pas dans le même portefeuille que la principale. Là. C'est sur les deux. Donc, ça peut être une bonne idée que, bon, moi j'ai la carte, on a la carte conjointe, mais aussi dans le portefeuille de Sarah, il y a une autre carte. Moi aussi. Ça fait que s'il arrive quelque chose, on perd notre carte ou elle arrête de fonctionner, ça peut être une bonne idée qu'elle fonctionne. Puis de l'avoir testée, là, tu sais, nous, notre carte secondaire, elle ne voit pas le soleil souvent, là, tu sais, elle est à zéro, puis on s'en sert quasiment jamais. Mais avant de partir, on va juste faire une petite transaction, être sûr que ça fonctionne toujours bien, qu'elle n'a pas été désactivée en raison de l'inactivité du compte.
Absolument. Ce n'est pas un bon moment de découvrir que sa carte ne fonctionne pas quand on est en voyage. Puis petit point, s'il y a quelque chose qui arrive en voyage, pour une raison ou une autre, vous perdez votre carte, vous le faites voler, appelez vraiment à la compagnie de carte de crédit. C'est la première chose à faire définitivement. Gardez sa carte aussi, puis tout son argent bien caché. Donc, nous, on l'a déjà conté, cette histoire-là, mais quand on a été en Italie, il y avait un couple qui avait gardé ses documents dans le sac à dos du mari, et puis quelqu'un est allé fouiller dans le sac à dos, puis
ramassé les passeports, l'argent cash, oui. Les cartes de crédit, fait que ça a commencé le voyage assez difficile. Si jamais vous perdez votre carte, là, juste avant de paniquer, on a simplement allé sur accéder, puis on peut venir bloquer le compte. Fait qu'au moins, éviter qu'il y ait des transactions pas autorisées qui passent, ça se fait très bien. Puis ça désactive pas la carte. Là. Si, mettons qu'on la retrouve, on peut après ça débloquer le compte tout simplement.
Ah, bon truc, Martin. Ça, je ne le savais pas parce que c'est toi qui gères ça pour nous. Un autre point clé, ce sont les frais à l'étranger. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact des conversions de devises.
Oui, donc la plupart des cartes de crédit vont facturer un frais de 2,5% sur les transactions en devises étrangères. Donc, si j'achète une sacoche Louis Vuitton à 2-3 000 $, ben, à ajouter 2,5 %, là. Donc, ça fait partie de la transaction. Il y a un écart entre le cours acheteur et vendeur aussi. Des fois, le terminal de paiement va nous dire, ben, voulez-vous payer en euros, là? Ben, souvent, le taux de change, par exemple, du terminal, il est vraiment pas bon, là. Donc, peut-être, si c'est vraiment une grosse transaction, ça peut peut-être valoir la peine de rapidement faire un petit calcul. Mais gardez ça en tête. C'est le cas de Visa Infinite Desjardins qu'on a, là. C'est bien 2,5 % de frais de devise. Des fois, on est sur des sites, puis là, on décide d'acheter notre visite au musée du Louvre, puis là, parfait, pouf, j'achète. Hey, c'est en euros, hein. Il ne faut juste pas oublier que ça a l'air pas cher, là, mais en livre sterling ou en euros, là, ça coûte finalement une fois et demie, deux fois le prix, là. Donc, juste s'assurer de le site web sur lequel on est, il est dans quelle devise au juste. C'est pas toujours clair qu'on est en dollars canadiens quand on fait ça.
Puis ne pas être gêné de faire les calculs, là, hein. Des fois, sortir son téléphone, sortir le calculateur, puis dire, regarde, je vais le vérifier. C'est correct. Des fois, on n'a pas le goût de faire ça, mais moi, j'ai appris avec l'âge, il faut prendre le temps parce que sinon, on se fait avoir.
Exact. Puis, une carte de crédit sans frais de conversion peut faire une différence. Donc, c'est pour ceux qui voyagent vraiment beaucoup, par exemple, aux États-Unis, ça existe des cartes de crédit en dollars américains. Donc, tu sais, Desjardins offre ça. Fait que prenez-vous une carte de crédit en dollars américains, puis, tu sais, faites toutes vos transactions en dollars américains. Puis, quand on revient, ben, on fait juste une conversion de devise, on paye le compte. Ça peut faire une différence là, pour, par exemple, les snowbirds qui voyagent beaucoup, que vous avez l'habitude de toujours aller dans le même pays, ça pourrait être intéressant. Fait que c'est tout des petits montants, mais à la fin du voyage, là, ça a coûté 300-400 $ de frais de plus qu'on n'avait pas prévu. Ça fait une différence.
Mais puis, il y a des fois, les clients ils vont dire, je pars en vacances dans 3 mois, est-ce que je devrais convertir maintenant? Quand est-ce que... Je pense que l'autre point, c'est de ne pas... trop le rendre complexe non plus.
Ouais, donc puis les devises, là, il n'y a rien de plus compliqué à prédire que ça, là. C'est imprévisible. On n'a aucune idée, tu sais. Donc, on peut regarder le range puis dire, récemment, là, le dollar canadien a évolué, par exemple, entre 71 et 74 américains. On est à 73,50. Donc, on est dans le haut de la fourchette. Ça va être quoi dans 2 semaines? J'ai aucune idée. Je sais juste qu'on est dans le haut de la fourchette récente. Donc, si quelqu'un a besoin de partir en voyage, ben, le temps est opportun. Là, probablement que c'est un taux moyen qui fait du sens.
On recommande rarement de voyager avec beaucoup d'argent comptant. Je pense que les gens le font de moins en moins, mais zéro liquidité, c'est pas idéal non plus.
Ouais, il y a plein de choses là, qu'on doit payer en argent comptant. Moi, j'ai appris une chose aussi dernièrement au niveau de l'argent comptant. Donc, j'avais l'habitude, des fois, j'allais au Mexique, je partais avec des pesos mexicains. Puis là, quand tu vas au bureau de change, là, sur Peel, là, pour transférer, tu sais, c'est pas une devise super populaire. Donc, l'écart entre le cours acheteur et vendeur, il est comme 10 %. Fait que tu pars avec, tu sais, 500 $ canadiens de peso, puis là, t'en ramènes 300. Puis là, tu convertis, il manque 50 $. Ben oui, l'écart, le taux de change est horrible. Donc, si le pays utilise l'euro ou le dollar américain, fine, tu sais, le taux de change est toujours très favorable, mais faire attention des fois les devises locales, mais ça n'en prend pareil. Fait que, tu sais, des fois, on peut juste garder nos devises. Moi, c'est ce que je fais, là. J'ai comme un petit stash de devises avec un petit peu de peso, un petit peu de dollars, un petit peu d'euros. Ça évite de convertir et on part avec, tu sais, quelques centaines de dollars, peut-être pour le taxi, pour le café ici et là qui n'accepte pas les cartes de crédit. Des fois, d'avoir un petit peu de cash, les pourboires, des petites devises ici et là. S'il n'y a rien de plus plate que d'arriver à destination, puis là, on n'a pas 2 $ ou 2 € pour donner au chauffeur. Donc, des fois, de se briser des devises. Et à la fin de votre voyage, ben c'est le temps là, de faire de la devise, de changer. Si vous avez juste des gros billets au pays local, demandez donc de briser un gros billet pour quelques pourboires pour votre prochain voyage que vous pouvez garder.
Oui, ça, c'est très bon. C'est sûr qu'on ne peut pas parler d'organisation financière en voyage sans aborder l'assurance.
Et ça, c'est un sujet qui est négligé. Donc, souvent, quand on achète le voyage là sur les sites, ça va nous proposer de l'assurance. Bon, c'est important de le considérer. Beaucoup de cartes de crédit offrent de l'assurance voyage, mais avec plein de conditions, hein. Donc, assumez pas que vous êtes bien assuré parce que vous avez la carte. Par exemple, Desjardins Visa Infinite Privilege, c'est une excellente carte, plein d'assurance. Par contre, à 75 ans, la couverture se termine. Et puis là, ça dit dans la publicité, tu sais, on est assuré pour 60 jours. si on a moins de 55 ans. T'sais, si j'ai entre 65 et 75, c'est juste 15 jours, c'est pas 60. L'assurance annulation, par exemple. Donc, c'est l'assurance annulation, ben c'est juste 2 500, là, t'sais, beaucoup de voyages maintenant coûtent plus cher que ça. Donc vraiment là, c'est important de vérifier ça.
Puis aussi savoir si les conditions médicales préexistantes sont couvertes. Je pense que ça, c'est important. Et de valider aussi la durée du couverture et les exclusions, comme tu as dit.
Exact.
Donc, pour avoir connu des gens qui ont eu des incidents médicaux à l'étranger, j'en ai connu une qui a eu un gros incident aux États-Unis et Dieu merci, elle avait son assurance de son employeur parce que ça leur a coûté des centaines de milliers de dollars.
Exact.
On gère aujourd'hui presque tout en ligne, hein?
Oui.
Compte bancaire, carte, confirmation de réservation. Est-ce qu'il y a des risques de ce côté-là?
Bien, évidemment, tous les réseaux Wi-Fi publics au café du coin dans un pays étranger, ben, peut-être pas l'idéal là, d'aller vérifier ses comptes bancaires. Toujours être quand même assez prudent de ce côté-là. Peut-être activer les notifications de transaction. Donc, on peut se faire aviser, là, entre autres. Tu sais, nous, on peut recevoir quand une carte, une charge sur la Visa ou sur Apple Pay passe, pouf, on a un pop-up qui nous avise. Chose intéressante ou importante aussi, tu sais, prenez une photo de vos documents de voyage, de vos passeports, puis, tu sais, on sauvegarde ça sur l'info nuagique. Tu sais, les gens qui avaient perdu leur passeport en Italie, ben, il n'y avait pas de photo vraiment de leur passeport. C'est quoi le numéro, c'est quoi la date d'échéance, puis tout ça. Donc, quand c'est le temps de renouveler le document de façon urgente, c'est beaucoup plus facile si on a une photo du passeport avec toutes les données. Puis ça sert en même temps de pièce d'identité. Là, imaginez, je suis dans un autre pays, j'ai plus rien. Ben, au moins, j'ai une photo de ma pièce d'identité. C'est pas la pièce elle-même, mais ça peut dépanner en cas de
Perdez
besoin.
pas votre téléphone en même temps.
Perdez pas votre téléphone. Mais de toute façon, avec un ordinateur, n'importe quel
Ouais.
ordinateur, je peux accéder à mon compte, pourvu évidemment que je connaisse mes mots de passe. Donc, tu sais, de noter, de souvenir au moins de son mot de passe principal pour son compte d'info nuagique. Noter les numéros à appeler en cas de fraude, là. Donc, si je perds mon portefeuille et je perds mon téléphone, ben, c'est peut-être une bonne idée de trouver le numéro de Visa Desjardins puis d'appeler accéder au Visa Desjardins, par exemple.
C'est ça, des fois avoir les choses à portée de main, ça nous permet de stresser moins, on devient
Ouais.
très ébranlé.
Moi, j'imprime tout le temps en papier les confirmations de voyage, même si on les a dans le téléphone, parce que je ne sais pas, je peux perdre mon téléphone, la batterie est plus bonne, peu importe, c'est quoi l'affaire. Fait que j'ai un petit backup papier dans le fond de la valise, là, c'est pas une méchante idée.
Donc, la morale de l'histoire, c'est toujours avoir un plan B. Et la cybersécurité est toujours importante, même quand on part en voyage. Donc, merci beaucoup, Martin. Profitez de vos voyages cet été. Ayez du plaisir. Si vous avez des questions sur la planification financière, les cartes, les assurances, ou simplement vous voulez nous parler de votre situation financière, toute notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, on est là pour vous accompagner. À bientôt et à la semaine prochaine pour un autre épisode de À l'écoute des investisseurs.